Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 mai 1610, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Au matin du vendredi 14 mai 1610, Henri IV reçoit la visite de son fils naturel, César de Vendôme, qui se déclare inquiet. En effet, un certain Labrosse, médecin et astrologue, prédit le décès du roi pour le jour même. Vendôme exprime ses craintes à Marie de Médicis et supplie son père de ne surtout pas quitter le Louvre. Pourtant, vers 16h, Henri IV se rend à l'arsenal, au chevet de son ministre Sully, souffrant. Il se déplace sans escorte pour ne pas attirer l'attention. Par le beau temps printanier, le carrosse est ouvert. Le vert galant se tient au fond, au milieu de la banquette, entre Monsieur de Montbazon et le duc d'Épernon. Rue de la Ferronnerie, il faut s'arrêter en raison d'un accrochage entre deux voitures. François Ravaillac suit Henri IV depuis le Louvre. L'embarras de circulation lui permet de rattraper le carrosse royal. Il monte sur une borne et frappe le souverain d'un premier coup de couteau. « Je suis blessé !» crie le roi en levant le bras. Ce réflexe est fatal. Ravaillac lui porte un second coup qui, passant sous le bras, atteint le cœur et le transperce. Henri IV meurt sur le champ. Vers 16h30, l'équipage royal arrive au Louvre. Le corps du roi est monté dans sa petite chambre à coucher au premier étage. Jusqu'à 21h, la rumeur affirme que le monarque est seulement blessé. En sa qualité de colonel général de l'infanterie, le duc d'Épernon met le Louvre en défense. Il place des gardes au Pont-Neuf et aux abords du palais de justice. Il se rend au Parlement accompagné du duc de Guise. Le petit dauphin est prévenu vers 18h. L'assassinat de son père le fait roi. Il est désormais Louis XIIIe du nom. Un peu plus tard dans la soirée, Marie de Médicis l'envoie chercher pour le faire coucher dans sa chambre. Demain, elle sera régente du royaume. Ravaillac est né à Angoulême en 1578 ou 1579, rien n'est certain. Son père est solliciteur de procès. Lui-même est d'abord valet d'un conseiller au Parlement avant de reprendre la profession paternelle. Il manifeste des sentiments religieux exaltés et séjourne un temps dans un couvent de Feuillans. Son comportement met prématurément un terme à sa fille religieuse. Il est grand et fort, vigoureusement bâti, il a des mains énormes, ses cheveux drus et sa barbe fournie, d'une même couleur noire à reflets roux, encadre un visage émacié dans lequel brille un regard ardent. Il a un air satanique. Son physique le dessert au point qu'il est un jour accusé d'un meurtre commis à Angoulême. Emprisonné durant une année, il est finalement lavé de tout soupçon. Mais il est couvert de dettes et ne tarde pas à retourner en prison pour ce motif. Il profite de ce nouveau séjour dans les geôles royales pour étudier la théologie. Il a de fréquentes visions. Durant ses instants d'illumination, il écrit des vers mystiques. Une question l'obsède. Dans quelles conditions un chrétien a-t-il le droit de tuer un souverain ennemi de la papauté ? À sa sortie de prison, Ravaillac est une célébrité locale. Le duc d'Épernon, gouverneur d'Angoulême, se le fait présenter. Il l'envoie à Paris pour solliciter dans un procès. Il rejoint ensuite Naples. Les princes protestants du Saint-Empire resserrent alors leur alliance contre la France. Dans les négociations entre la Hollande et l'Espagne, Paris pèse de tout son poids pour contraindre Madrid à reconnaître au moins de facto l'indépendance des Provinces-Unies. Informé des traités d'alliance que la France s'apprête à conclure avec les souverains protestants de Suède et du Danemark contre les intérêts de l'empereur et du parti catholique allemand, Ravaillac évoque la nécessité de tuer Henri IV. Il regagne Paris où il séjourne en juin et juillet 1609. Il suit régulièrement les déplacements du roi. Un jour, il va jusqu'à l'aborder à proximité du cimetière des Innocents, mais les gardes le repoussent. À l'approche de Pâques 1610, Ravaillac séjourne à Angoulême. Il revoit sa mère, mais ses pensées homicides l'empêchent de trouver la paix de l'âme. Il ne doute plus. Sa résolution est définitive. Le meurtre du roi par l'ordre de Dieu peut seul le faire rentrer dans la pleine communion de l'Église. En avril 1610, il dérobe un couteau dans une auberge. Au moment d'agir, il hésite et reprend le chemin de sa ville natale. À Étampes, un calvaire le rappelle à son devoir. Il rebrousse chemin et revient à Paris. Le 14 mai 1610, vers 16h, il se jette sur Henri IV devant la boutique à l'enseigne du cœur couronné, percé d'une flèche, signe du destin. Rue de la Ferronnerie, nous sommes dans le quartier des Halles. Il l'assassine de deux coups de couteau. Ravaillac se laisse arrêter. Le duc d'Épernon donne l'ordre de ne surtout pas le tuer. Il l'installe à l'hôtel de Ré, qui est contigu du Louvre, où il se retrouve progressivement au calme et à une certaine sérénité. Le 17 mai, il est transféré à la conciergerie pour les nécessités du procès, confié au Parlement de Paris. L'instance est instruite par une commission placée sous la présidence de M. de Harlay. Les interrogatoires qui alternent avec les séances de torture durent 13 jours. Les enquêteurs cherchent à déterminer des complicités éventuelles. Ravaillac affirme avoir agi seul. Le 27 mai au matin, à genoux, un cierge dans la main, il entend l'arrêt de la cour qui le condamne à mort. De nouveau soumis à la terrible torture des brodequins, il demande pardon au roi, à la reine et à ses juges. À 15h, extrait de la conciergerie, il monte dans le tombereau à ordures qui le mène jusqu'à la place de Grève, autrement dit l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, où est prévu le supplice de l'écartèlement. Après une demi-heure de souffrance atroce, les articulations cèdent et les membres disjoints sont aussitôt happés par la foule qui s'en empare, les coupe en morceaux et pour finir les brûle. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres. C'est Bob Marley que nous écoutons. Nous célébrons actuellement le 40e anniversaire de son décès. J'ai choisi un titre de 1974, No Woman, No Cry.
No woman, don't cry. No woman, no lies there, and no woman, no cry. No woman, no cry. Oh, my little darling, say you don't shed no tears. No woman, no cry.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres, chronique préparée par Emmanuel, que je vais vous présenter maintenant. Trois livres d'un même éditeur, Liana Levy, pour commencer La réparation du monde. La littérature de la Mitteleuropa reste bien souvent empreinte de nostalgie et de l'enchevêtrement des populations, créant au fil du temps un melting pot, malgré tout générateur de difficultés à vivre ensemble. Voici donc l'histoire des Kempf. Le jeune Georg Kempf part s'installer en 1770 pour la Transylvanie. L'essentiel du récit se concentre cependant sur les tribulations de son descendant homonyme, dont la famille s'est installée depuis des générations en Slavonie, l'actuelle Croatie. Ce descendant, ce Kempf-là, étudiant en médecine, se voit enrôlé dans la Waffen-SS à l'instigation de son père qui, flairant la guerre civile dans les Balkans, croit que son fils bénéficiera de la protection dû aux prisonniers de guerre et soudoie le recruteur nazi à cette fin. Le jeune homme se retrouve dans le sud de la Pologne démantelée entre 1943 et 1944, à proximité des camps d'extermination au cœur d'un âge d'airain où la vie humaine a perdu toute valeur. Il va parvenir à s'enfuir dans la forêt polonaise et à rejoindre un groupe de maquisards soviéto-polonais, ainsi obtenir un certificat de combattant soviétique, un précieux sésame dans une Yougoslavie en pleine révolution. La réparation du monde, c'est signé Slobodan Snager, c'est publié aux éditions Liana Levy. Les vies dérobées de Cynthia Leon, toujours aux éditions Liana Levy, trois femmes, trois destins, trois vies dérobées en 1936 à Jaffa. Ibrahim et Abraham, deux marchands de tissus voisins, l'un musulman d'Istanbul et l'autre juif d'Odessa, s'associent pour l'achat d'un précieux lot de coton égyptien. Mais lors d'un massacre, la famille d'Abraham est anéantie. Ibrahim, pour ne pas perdre son investissement et récupérer la part d'Abraham, décide d'usurper son identité. Myriam, sa femme, tente en vain de s'y opposer. Ibrahim, devenu Abraham, inventera pour lui et pour sa fille Yasmine une variante inédite du maranisme. L'imposture aura plus tard des conséquences sur leur destin et celui de leur famille. En 1938, en Italie, Giuditta, élevée dans une totale laïcité, découvre son appartenance juive alors que les lois raciales entrent en vigueur et l'obligent à la dissimuler pour affronter une vie pleine de dangers. En 1991, Esther, sa fille et troisième héroïne de ce roman, se voit proposer un drôle de contrat, un mariage créant un véritable imbroglio identitaire aux conséquences imprévisibles. Vie dérobée de Cynthia Leon, c'est publié aux éditions Liana Levy. Et nous terminons cette chronique par Le Petit Soviet d'Éric Descouty, toujours chez Liana Levy. Il a fallu l'appel d'un banquier inconnu pour que Joseph Krüger retourne dans la région de ses parents récupérer des documents concernant la succession de ses parents décédés. Ni eux, ni lui n'avaient plus d'attache dans cette région depuis trois décennies. Dès l'instant où il remet les pieds au village, Joseph est assailli par les souvenirs d'enfance qu'il pensait effacer. Mais surtout, dans ses rues vides, il a l'impression tenace que chacun de ses mouvements est surveillé et que tous ont été informés de son retour. Il comprend vite que sa présence dérange, qu'on aimerait savoir s'il connaît l'encombrant épisode de la fin de la Seconde Guerre mondiale, scellé dans un pacte de silence dans tout le village, épisode dont tous les habitants étaient soit complices, soit receleurs. Éric Descouty signe Le Petit Soviet, publié aux éditions Liana Levy. Ainsi s'achève cette chronique et par là même cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Bob Marley, grande figure de la tradition Rasta et du reggae. Nous écoutons l'un de ses titres les plus connus, réalisé en 1976, I Shot the Sheriff.
I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh.
Yeah. All around in my hometown, they're trying to track me down. Yeah. They say the life of a deputy, but I say, oh now, now, oh,
I shot the sheriff.
Oh, 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 oh